RCF.
Bonjour et bienvenue. Reprenons notre bâton de pèlerin en ce mois d'octobre, mois missionnaire extraordinaire, pour poursuivre dans Vie en Église, à la suite de Monseigneur Jean-Luc Bohiret, archevêque du diocèse de Besançon, la découverte de la paroisse Calixte II à travers ses forces vives, mais aussi ses faiblesses et ses doutes. Il y a tout juste 15 jours, nous évoquions la catéchèse sur ce secteur et une belle initiative avec les soirées pétales de rose dédiée à Sainte Thérèse. Et bien aujourd'hui, nous allons découvrir deux autres services d'église avec l'équipe de coordination pastorale et le diaconat permanent. Le diaconat en France, c'est plus de 2750 diacres permanents qui exercent leur ministère au service de la charité, de la parole et de la liturgie. Le mot diacre vient du grec et diakonos qui signifie serviteur. Le service est bien au cœur de la mission du diacre. Ces hommes mariés, célibataires, veufs, en activité professionnelle ou à la retraite, ont été ordonnés diacres par l'imposition des mains de leur évêque. Tous donnent une visibilité sur une réalité plus ou moins incontournable de l'Église catholique et c'est ce que va nous confirmer Luc Frelly.
RCF Besançon, Belfort, Montbéliard, Vie en Église, Isabelle Jouffroy.
Luc Frelly, bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, marié, père de famille. Et le 25 novembre 2018, vous avez rejoint les quelques 30 diacres du diocèse de Besançon. Alors, on est appelé au diaconat. Comment cet appel s'est déroulé pour vous?
Alors, en fait, je m'en souviens encore très très bien. C'est un jour, j'étais justement sur mon lieu de travail à l'université. Puis Claire, mon épouse, m'appelle et me dit « Écoute, on a reçu un appel là, téléphonique de Dominique Marcoux, responsable du diaconat, et en fait il aimerait nous rencontrer pour parler du diaconat. » Voilà, donc ça s'est présenté exactement comme ça. Donc un coup de fil un jour, je savais un petit peu de quoi retourner en fait, de quoi il s'agissait à propos du diaconat, mais guère plus. Voilà, et puis c'est comme ça que l'aventure a démarré. On a reçu les Marcoux à la maison, ils nous ont parlé du diaconat, et ça a été le début d'un long chemin de 6 années. Avant l'ordination, donc de l'année, presque un an, voilà, jour pour jour.
Alors, un long chemin de formation marqué par des étapes importantes avant l'ordination du diaconat permanent. Quelles sont ces grandes étapes?
Alors, je parle sous contrôle d'huissier parce que ma mémoire peut me faire défaut, mais en fait, la première chose, c'est déjà, il y a une année de discernement. Voilà. À l'issue de cette année de discernement, on demande ou non à entrer en formation. Voilà. Et à chaque fois, le diocèse a aussi son mot à dire, voilà, sur l'opportunité de continuer ou pas le chemin. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, l'étape suivante, ça a dû être, c'était le lectorat. Alors, il y a eu effectivement une étape intermédiaire qui était l'équipe d'accompagnement qu'on a formée avant le lectorat. Puis, il y a eu le lectorat. Puis l'acolyta et l'ordination. En gros, on peut compter à peu près une étape par an, voilà, grosso modo.
Période de discernement, c'est une période où l'on parle en famille de cette décision à prendre?
Alors, on parle en famille, mais en famille, on va dire rapprochée. C'est-à-dire qu'on nous a demandé vraiment au début de rester justement dans la discrétion vis-à-vis de notre entourage et nos proches. Et je pense a posteriori que c'est vraiment une bonne démarche parce que ça nécessite déjà de faire... le clair en soi, le clair dans son couple, ce qui fait qu'on n'en a pas parlé tout de suite aux enfants, par exemple. Même s'ils ont suivi la formation avec nous, ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Ils avaient fait Théophore avant, donc ça ne les a pas plus étonnés que ça. Donc on a pris ce temps vraiment d'en parler en couple, et puis soi-même en interne, déjà discerner en son cœur, voir si c'était quelque chose vers lequel on pouvait effectivement s'engager, sachant que c'est finalement très libératoire, parce qu'on nous dit bah, « tous les ans, vous pouvez vous arrêter ». Voilà, donc ça c'était vraiment une condition aussi qui nous a dit, bah, on tente l'aventure, parce que de toute façon, tous les ans, on peut dire non. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir ce chemin, et puis on va dire, le fait qu'on puisse le dire aux autres, ça a attendu un peu plus. Voilà, il a fallu 2 ou 3 années avant, effectivement, qu'on puisse en parler autour de nous, mais c'était bien nécessaire.
Donc l'évêque vous remet une ou des missions dans ce diaconat, quelles sont les vôtres?
Alors il y a bien sûr les missions qui sont, on va dire, internes à la paroisse, c'est-à-dire que j'ai une mission liturgique qui est au sein de mon unité pastorale, mais sachant que ça peut être aussi, ben là, demain, ce sera l'archevêché, donc à la cathédrale, mais on va dire, c'est les mariages, les baptêmes, c'est la présence liturgique le dimanche, ça c'est la première mission, la mission, on va dire, liturgique. Il y a une mission qui est, je dirais, dans ma vie active, dans ma vie tous les jours, au niveau professionnel, d'être quelque part un veilleur, un témoin de la présence de l'Église dans les milieux que nous représentons, diacres, et ce sont des milieux qui sont vraiment très variés. Puis il y a une troisième mission qui est une mission diocésaine, qui est en fait, alors pour moi spécifiquement, un accompagnement au sein de la pastorale des familles, dont la responsable est Haute Dufay. Voilà, donc ça c'est la mission diocésaine qui m'est confiée encore pour une année et qui sera réévaluée d'ici un an.
C'est important d'être ancré dans sa paroisse en tant que diacre.
Oui, autant le diacre effectivement est un diacre attaché à l'évêque, autant eh bien, notre lieu de vie, parce qu'un diacre, je crois, se doit d'être enraciné dans ce qu'il est au quotidien, dans sa vie de famille, dans sa vie de paroisse, dans sa vie professionnelle. Je crois que c'est vraiment une spécificité du ministère diaconal. Donc je pense que cet enracinement est fondamental. Donc il faut être effectivement enraciné dans sa paroisse aussi, voilà, pour que les gens puissent vivre ce ministère aussi de diacre et découvrir ce ministère de diacre.
Et le regard des autres a changé sur vous, que ce soit justement dans votre vie professionnelle ou dans la paroisse ?
Je ne saurais pas dire tout à fait si le regard a changé. Ce qui est sûr, c'est que les gens peuvent venir me voir pour discuter de questions particulières autour de la foi ou des questions de vie. Voilà, donc peut-être que c'est lié à ce ministère, peut-être que c'est lié aussi un peu à ce que je suis. Je pense que les deux sont un peu imbriqués. Est-ce que leur regard a totalement changé ? Ça, je ne pourrais pas le dire.
En fait, ils se sentent davantage en confiance.
En tout cas, ils sentent qu'ils peuvent avoir un dialogue sur certains thèmes avec moi, voilà, qui est un peu différent peut-être de ce qui peut se vivre autrement, voilà, notamment dans un cadre professionnel. Je suis dans un milieu qui est assez laïque, voilà, et ça, je pense que c'est aussi une porte différente qui est ouverte finalement dans mon bureau.
Et à l'inverse, cette ordination a modifié votre vie de famille ? Comment est-ce que vous faites la part des choses aussi entre diaconat, travail, vie de famille ?
Alors, je ne sais pas si c'est l'ordination qui a tout changé, mais en tout cas, le cheminement, déjà, ça c'est sûr, il a bouleversé notre vie. Il nous a transformé de l'intérieur, il ne nous a pas modifié, c'est-à-dire, je pense qu'il a fait mûrir des choses en nous. Je dis en nous parce que ça agit aussi sur toute la famille et sur les choix de la famille. Et l'ordination... Effectivement, elle a changé quelque chose et je m'en rends compte au travers, quand je fais un baptême, un mariage, quand je fais une homélie, je crois que je suis en train de découvrir ce qu'est la grâce du sacrement, en fait, et la présence de l'esprit dans ce sacrement. Oui, effectivement. Donc là, il y a eu quelque chose du domaine de la grâce à ce moment-là, c'est sûr. Et ça a changé quelque chose.
Quel est le moment fort, le moment clé que vous retenez de l'ordination et puis de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu dans les mois après ?
Un moment fort dans l'ordination, peut-être un des moments les plus forts, c'est le moment de la prostration. Le moment où vraiment, pour moi, ça a été le moment où je m'en remets complètement à Dieu. Je m'en remets aux gens qui sont là et qui prient aussi autour de nos ordinations. Ça c'est peut-être moi ce que je retiens comme moment, on va dire un peu particulier, avec aussi les échanges avec l'archevêque où je sens aussi beaucoup de, je sens vraiment le pasteur en fait en lui, ce regard du bon berger qui est là et qui voilà qui accueille de nouveaux frères dans ce ministère du diaconat, et ça aussi son regard, ça a été quelque chose d'assez fort. Après, au-delà de l'ordination, je crois que vraiment les moments forts pour moi, c'est les premiers baptêmes et le premier mariage que j'ai effectué. Et là, vraiment, j'ai ressenti profondément cette grâce du sacrement et le fait que l'Esprit Saint, au travers de moi, voilà, fait vivre quelque chose du sacrement aux gens qui sont présents. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment des moments que je découvre et qui sont extrêmement forts.
Et ce sont des moments que vous pouvez partager avec d'autres diacres. Vous avez l'occasion justement de vous rencontrer. Vous avez été ordonné en même temps que Pierre Mabille. Voilà, vous continuez à vous voir régulièrement et à échanger.
Alors, on va, en fait, on a, notre formation n'est pas terminée. On a encore une autre formation, donc ça va nous donner l'occasion, effectivement, de repartager. On a aussi maintenant des... On est à la fois en formation et puis on est déjà diacre. Enfin, je suis déjà diacre. Donc, on a déjà des fraternités diaconales qui se rencontrent, allez, une fois tous les 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc... on va dire, alors il y a eu un grand vide, on va dire, mais ça c'est assez classique, de la période d'été. Et puis là, en fait, les activités, les rencontres, les temps de partage au travers de ce qu'on a vécu vont recommencer prochainement, quoi, à partir du mois de novembre. Voilà, on va reprendre cette activité d'échange. Donc ça a été très ponctuel, en fait, les échanges avec d'autres diacres sur ce qu'on a vécu.
Mais en même temps, c'est important.
Oui, c'est fondamental. Oui, ça permet justement de voir ce que les joies des uns et des autres, les difficultés aussi qu'on peut rencontrer les uns et les autres dans nos missions, dans notre façon de vivre la liturgie, dans nos rapports aussi avec nos prêtres. Voilà, je pense que c'est vraiment des temps de fraternité particuliers et qui sont absolument nécessaires pour nous et pour nos épouses aussi.
Et quelle est justement la plus grande des difficultés que l'on rencontre ?
Le fait peut-être d'être maintenant un représentant de l'Église. Parfois, j'ai une parole qui peut être assez libre, donc ça m'oblige, mais heureusement il y a eu 6 ans de formation pour ça, 6 ans de discernement, ça m'oblige parfois à ne pas oublier que je suis représentant de cette Église, que je suis... Si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui peut être dit par certaines personnes dans l'Église, je suis un représentant de cette Église que j'aime. Et donc, voilà, ça m'oblige à faire la part des choses et à aller creuser plus en avant ce qu'il y a, même dans la parole qui peut me perturber, me choquer, me dire « oui, mais qu'est-ce qu'il y a de prophétique dans ce qui a été dit ? Qu'est-ce qui vient de titiller ? Qu'est-ce qui vient de piquer ?» Donc d'aller chercher sans pour autant dire que je suis d'accord avec tout, mais dire « oui, mais là-dedans, il y a certainement aussi quelque chose qui est juste ». Et tu ne détiens pas une vérité particulière. Tu fais partie de cette Église et tu es représentant de cette Église. Donc ça, c'est peut-être une petite difficulté à finir d'assumer, de comprendre.
Luc Frelly, merci pour votre témoignage. Et puis j'en profite pour rappeler que le doyenné des Vallées, dont fait partie la paroisse Calixte 2, prochainement, comptera un diacre de plus. C'est Jean-Pierre Sédos qui sera ordonné diacre permanent le 10 novembre. Merci.
Écoutez la vie du bon côté, RCF.
Ordination diaconale, en effet, à la cathédrale Saint-Jean-Saint-Étienne de Besançon. Ordination de Jean-Pierre Sédos. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur cette antenne, donc le 10 novembre. D'ici là, pour poursuivre l'échange avec Luc Frelly et revenir sur la visite pastorale de Mgr Bouyret à Quingé, c'était du 10 au 13 octobre, je vous le rappelle. Eh bien, lors de cette visite, Mgr Bouyret avait souhaité rencontrer les ados de ce secteur. Le vendredi 10 à Quingé, il l'a fait. Une belle soirée préparée par Claire et Luc Frelly, justement, et où l'archevêque a pu expliquer sa mission à tous les jeunes avides de questions, à l'image de Gaspard, qui a confié quelques-unes de ses questions à Cécilia Goguillon.
Alors déjà, qu'est-ce que le rôle de l'archevêque ? Enfin, comment charger votre emploi, parce que l'emploi du temps, c'est quand même quelque chose d'important, enfin, voilà, enfin...
Est-ce que toi, tu sais exactement en quoi consiste son rôle déjà ou ça va te permettre d'en apprendre plus ?
Enfin, je sais que l'évêque, c'est celui qui supervise tout le diocèse, donc voilà, c'est tout ce que je sais.
Voilà. Donc tu vas apprendre des choses ce soir.
Sûrement.
Et est-ce que tu peux me dire ce que ça t'apporte de participer à ce groupe ado ? Est-ce que tu as envie de continuer ? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce groupe ?
La convivialité déjà, puisque tous les jeunes semblent être contents d'être ici, donc nous les jeunes, enfin, ça, c'est une sorte de regain pour la paroisse, enfin, pour toute la communauté, puisqu'après ces jeunes, après on peut se dire peut-être qu'ils continueront leur parcours, peut-être qu'ils deviendront, je sais pas, bénévoles, alors animateurs de caté. Ou...
Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, c'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé. Et dans le feu baptisé, aujourd'hui
je me lèverai. Je suis enfant de Dieu.
Écoutez RCF sur le 87.6 à Besançon.
Alors au cours de sa visite pastorale sur Quingé, Mgr Bouilleret a rencontré les ados, mais pas que. Il y avait également au programme la rencontre avec les membres de l'équipe de coordination pastorale. L'ECP, équipe de coordination pastorale, c'est un peu le conseil municipal de la paroisse. Elle a le souci du bien vivre sur cette paroisse, que chacun puisse s'épanouir, le souci de tous et de chacun. Mgr Bouilleret a remis une lettre de mission à chaque membre de l'équipe de coordination pastorale lors de la messe du dimanche 13 octobre, messe jubilée du pape Calixte II, et parmi les nouveaux membres, Thibaut Villermet, qui a accepté de répondre à quelques questions. Thibaut Villermet, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a quelques semaines, vous avez reçu des mains de l'archevêque de Besançon, Mgr Bouilleret, une lettre d'envoi en mission à vous et aux différents membres de l'équipe de coordination pastorale de la paroisse Calixte II. C'était au cours de la visite pastorale donc de Mgr Bouilleret sur cette paroisse. Il vous a donc remis cette lettre au cours de la messe du 13 octobre, messe en l'honneur également du pape Calixte II, dont on fête cette année les 900 ans de pontificat et natif de Quingé. Je suppose que c'est important pour vous de recevoir cette lettre de mission. Comment vous l'avez vécue ?
C'était vraiment un beau moment. Toute l'équipe de coordination pastorale de Quingé était là. On a tous reçu notre lettre de mission et devant toute l'assemblée, devant de tous les gens que l'on connaît de la paroisse. Et vraiment, c'était un moment très émouvant.
Ça marque un vrai engagement, en fait. Alors, de quelle manière est-ce que vous avez été appelé, puisque vous avez été appelé à faire partie de cette équipe de coordination pastorale ?
Donc, suite au renouvellement de l'équipe de coordination pastorale de la paroisse, donc Calixte II, donc la quasi-totalité des membres était renouvelée et du coup il a fallu que c'est Pierre Berger avec l'aide de notamment André Tassetti, ils ont donné des noms en fait de personnes qui pouvaient faire partie de cette équipe. Donc j'ai été contacté en premier lieu par André Tassetti, donc qui est délégué pastoral de la paroisse, et donc qui m'a proposé de faire partie de l'équipe. C'était assez surprenant parce que ça fait pas longtemps que je suis dans la, enfin ça fait 10 ans que j'habite sur Quingé, mais ça fait pas longtemps que je suis dans la paroisse. Je faisais partie du conseil pastoral depuis 3 ans aussi. Mais l'équipe de coordination, c'est quand même quelque chose, de mon point de vue, qui paraissait quand même assez complexe. Et je ne pensais pas au départ avoir la capacité de faire partie de cette équipe.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui ? Vous avez décidé de faire confiance aux personnes qui vous ont appelé ?
Oui, c'est ça. Déjà, les personnes, enfin André Tassetti notamment, et Pierre par la suite qui m'a un peu parlé de l'équipe. Déjà, c'est des personnes que j'apprécie. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple quand c'est des personnes comme ça qui vous contactent. Bienveillantes, déjà, ça aide. Mais après, il y a quand même toujours un frein, une réflexion quand on peut être amené à jouer un rôle dans une équipe comme celle-là. Et du coup, beaucoup d'interrogations. Mais c'était aussi une période pendant la semaine sainte, notamment, qui m'a beaucoup aidé aussi dans la prière pour dire oui. Le baptême aussi, pendant la semaine sainte, on a suivi le, enfin on suivait depuis plusieurs, depuis un an, donc une personne de la paroisse, Emmanuel Kojek, qui se préparait au baptême et par la suite à la confirmation. Et c'était vraiment aussi un moment, des moments aussi de partage et de communion à ce moment-là, très intense. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon choix. Voilà.
Alors, vous nous avez parlé d'équipe de coordination pastorale, donc là où vous avez été appelé, de conseil pastoral. Vous pouvez nous dire un petit peu la différence et le rôle de chacune de ces équipes ?
Alors, le conseil pastoral, essentiellement, c'est on est plus sur de l'organisation au sein de la paroisse, une aide qui peut être apportée aussi, notamment. Alors, le rôle qu'on a joué sur les 3 ans, c'était l'organisation du repas de la paroisse, donc tous les ans. Repas qui a eu lieu d'ailleurs le jour de la remise des lettres de mission par l'évêque. On organisait aussi tous les 2 ans un remerciement auprès pour les personnes de la paroisse qui aident à tout niveau en fait au sein de la paroisse, que ce soit de la distribution du journal des vallées jusqu'à aux personnes qui s'occupent des fleurs, du fleurissement de l'église. Et du coup, on organisait aussi un apéritif à un autre moment de la saison de l'année pour remercier toutes ces personnes. Les personnes du conseil pastoral peuvent être contactées pour aider, comme s'il y a besoin de... Comme il y a eu des travaux dans la salle de catéchèse, on était là pour déménager, pour emménager, voilà.
Et le conseil pastoral est vraiment dans l'organisationnel. L'équipe de coordination pastorale, quel est son rôle ?
Alors, l'équipe de coordination pastorale, c'est comme un peu son nom l'indique, l'équipe est là pour coordonner tous les différents pôles qu'il peut y avoir au sein de la paroisse. Il y a beaucoup de choses qui se font au sein de la paroisse et il faut des gens qui soient là pour relayer, pour faire passer un message. Et qui soit là pour être à l'écoute.
De ce fait, chaque membre de l'équipe de coordination pastorale a un rôle, on va dire, un rôle bien défini.
Oui, même si au départ, même pendant toute la durée du mandat, finalement, on est tous là pour s'aider les uns les autres, mais chacun est quand même responsable d'un pôle. Justement pour quand même être amené à participer aux différentes réunions qu'il peut y avoir au sein de chaque pôle de la paroisse, notamment ce qui touche, pour mon cas à moi, ce qui touche à la vie économique, qui est un domaine assez vaste. Et du coup, il faut quelqu'un dans l'équipe de coordination qui puisse relayer... faire le lien entre l'équipe de coordination et le conseil économique qui gère toute la partie trésorerie, finance de la paroisse. Et du coup, il faut quand même quelqu'un qui soit là, qui soit défini pour ce rôle. Mais après, on est chacun amené à jouer un rôle dans un autre pôle qui n'est pas forcément dans un pôle qui n'est pas forcément le nôtre.
Alors, quels sont les autres pôles, donc, outre ce pôle économie ?
Donc, il y a le pôle donc de l'annonce de la foi, qui concerne les missions pastorales, qui vise une annonce de la foi, catéchèse, catéchuménat, recommençant, confirmant, pastoral des jeunes, donc qui fait le lien avec toutes les personnes qui gèrent notamment la catéchèse. Donc, il y a un autre pôle qui concerne la célébration du salut, qui concerne la préparation et la célébration de tous les sacrements, donc ainsi que la vie spirituelle et la vie de prière. Un autre pôle qui concerne le service de la vie des hommes, donc là qui concerne plus la charité et donc qui demande de porter donc la personne qui est responsable du pôle, ça demande de porter une attention particulière aux situations de souffrance et de pauvreté au sein de la de la paroisse, mais aussi au sein, oui, au sein notamment de l'EHPAD, faire le lien avec les personnes qui ont envie de participer à la vie de la paroisse, mais qui ne peuvent pas forcément. Toutes ces personnes, et aussi les personnes qui travaillent. Donc un quatrième pôle qui concerne les priorités pastorales, c'est notamment tout ce qui est organisation de journées comme la journée 3D ou le synode, et donc un cinquième pôle qui concerne la vie économique de la paroisse dont...
délégué voilà. En fait voilà, donc voilà pour les cinq pôles. Donc en fait vous êtes cinq membres dans cette équipe de coordination avec bien entendu le père Pierre Berger qui est curé de la paroisse Calixte de Quingé et le père Robert qui est sur Grandfontaine. Alors pour clore cet entretien, Thibaut Viermet, de quelle manière est-ce que vous allez assurer, je dirais, ce service, puisque là vous démarrez, mais Dans quel état d'esprit, on va dire, vous allez assurer cette mission?
L'état d'esprit, au départ, c'est quand même assez, ça paraît quand même assez complexe.
Alors, c'est peut-être intimidant et complexe, mais en même temps, vous n'êtes pas seul. Je suppose que vous pouvez compter les uns sur les autres au sein de cette équipe. Donc ça, c'est plutôt rassurant aussi.
Ça, c'est un point d'ailleurs primordial, en fait. Si je savais que je ne pouvais pas compter sur des personnes bienveillantes, qui sont à l'écoute, comme les personnes qui font partie de l'équipe de coordination, je pourrais pas en faire, j'aurais beaucoup de mal à en faire partie, en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est vrai que c'est primordial d'avoir, de pouvoir compter sur des gens autour de nous qui peuvent, en cas de difficulté, nous aider. Et puis qui sont à l'écoute aussi dans les différentes réunions ou en dehors lors des préparations comme il y a pu avoir avec la venue de Monseigneur Bouilleret.
Alors non seulement être à l'écoute, mais après aussi essayer de trouver des solutions.
Oui, donc là c'est aussi ce qui peut être un peu plus complexe, hein, notamment quand on ne connaît pas forcément au départ, je dis bien le fonctionnement de la paroisse en fait, on n'a pas connaissance en fait du fonctionnement. Ouais, c'est quelque chose de très complexe et du coup pour trouver, trouver des solutions aux problèmes. Après avec le temps et la connaissance de la paroisse, ça viendra sûrement, ça viendra, et surtout le travail en équipe avec l'équipe que l'on est là, ça viendra, j'en doute pas.
Eh bien, on vous souhaite une belle route avec cette toute nouvelle équipe de coordination pastorale donc sur la paroisse Calixte 2. Je suppose aussi que le fait justement d'être dans une paroisse d'où est natif le pape Calixte 2, c'est porteur.
Ah c'est quelque chose qui porte effectivement et qui encourage à aller de l'avant et vraiment tout la paroisse en elle-même, c'est quelque chose, les gens qui sont, que l'on a pu rencontrer avec ma famille, hein, avec Angélique, ma femme, toutes les personnes que l'on a rencontrées depuis qu'on est dans cette qu'on est revenu à l'église, c'est vraiment, on est vraiment on a été très bien accueillis et ça c'est vraiment quelque chose aussi d'important et que beaucoup de gens ressentent, je pense, au sein de la paroisse.
Une belle dynamique d'église pour Thibaut Viermet qui a reçu donc des mains de l'archevêque du diocèse de Besançon le 13 octobre en l'église Saint-Martin de Quingé, sa lettre de mission comme nouveau membre de l'équipe de coordination pastorale. C'est ainsi que prend fin cette escale sur Quingé et les paroisses environnantes. Toutes les émissions réalisées sur ce secteur sont disponibles en podcast sur le site rcf.fr et sur clé USB. Il suffit pour ce faire de téléphoner à RCF au 03 81 82 38 38. On se retrouve pour un prochain numéro de Vie en Église sur RCF le lundi 18 novembre. Belle semaine à chacune et chacun.